Vous écoutez France Culture.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit.
Je veux que tout change.
Ce soir, l'atelier fiction vient clore le printemps des poètes dont France Culture est partenaire. Vous avez pu entendre les poèmes inédits sur l'enfance, lus par les élèves du Théâtre National de Bretagne, dans Pas la peine de crier, toute la semaine dernière. La poésie se dit en direct ce soir. C'est une carte blanche au directeur artistique du Printemps des Poètes, Jean-Pierre Siméon, qui défend le territoire des petits éditeurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Voilà sa géographie du poème, direction le studio 111 de la Maison de la Radio, où l'on retrouve Jean-Pierre Siméon.
Géographie du poème. Carte blanche à Jean-Pierre Siméon. En direct du studio 111 de la Maison de la Radio.
Ah, la poésie. Que n'a-t-on dit à son propos depuis 50 ans ? Portée disparue, proclamée inadmissible, décrétée illisible, interdite à la circulation, exilée sous d'autres cieux, j'en passe. Comme toujours, préjugés et contre-vérités croissent sur l'ignorance. Contrairement à ce qu'on croit, dit ou pense généralement, la poésie n'a jamais cessé ces dernières décennies d'être active, inventive, de se réinventer dans ses métamorphoses. À rebours de toutes les déclarations catastrophistes, je prétends que la poésie est aujourd'hui en France en pleine forme. En pleine forme, oui, et c'est à prendre au premier et au second degré. Si on ne le sait pas, c'est parce que, le plus souvent, les publications des poètes sont passées sous silence. Or, je ne crois pas aux théories du complot. L'omission quasi constante dont la poésie est l'objet tient principalement au fait que ce qu'elle requiert pour être prise en compte, l'attention, la patience, la lenteur, l'écoute intérieure, le goût du silence et la passion de la nuance, contrevient violemment aux lois qui régissent notre temps. Puisque l'occasion nous en est donnée ici, à France Culture, lieu préservé d'une écoute attentive, je vous propose d'aller y voir de plus près. Pour cela, une bonne méthode me paraît être, compte tenu de la réalité de l'édition poétique depuis les années 70, de s'intéresser à la production foisonnante de ce que l'on a coutume d'appeler la petite édition en région. Il ne s'agit certes pas de méconnaître l'apport des Gallimard, Flammarion ou POL par exemple, mais de privilégier pour une fois ce qui reste ordinairement dans l'angle mort, le travail exigeant de ces petites maisons excentrées, dispersées aux six coins de l'Hexagone, mais aussi en Belgique, en Suisse ou au Québec. Petites maisons qui, pour une bonne part, ont maintenu, au moment où la poésie disparaissait du champ de vision médiatique, la vitalité de la création poétique. Ce réseau d'édition, croyez-moi, bien des pays nous l'envient. Il est temps d'envisager son apport. Il ne s'agit pas d'établir je ne sais quel palmarès, de tenir le rôle du justicier ou de jouer les petits contre les gros, il s'agit seulement de donner à entendre la polyphonie vivante des poètes de ce temps. Comment ne pas commencer par les éditions Rougerie, la plus ancienne de ces maisons de poésie en région. Elle est née en 1948, leur prototype en quelque sorte. L'aventure des Rougeries, René, la figure tutélaire, Marie-Thérèse, son épouse artiste et Olivier, le continuateur, commence après-guerre, quand après avoir rencontré Georges-Emmanuel Clancier et Robert Margerie au populaire du Centre à Limoges, René fonde avec eux la revue Centre, qui publie entre autres Jo Bousquet, Raymond Queneau ou Max Jacob. C'est donc à Limoges, puis non loin, à Mortemart, que René Rougerie inscrit dans l'esprit de la Résistance son travail d'éditeur et artisan typographe. L'indépendance des choix, de la fabrication et de la diffusion est le maître mot de cette entreprise. Découvreur dans l'âme, Rougerie publie les premiers textes d'auteurs alors inconnus comme Boris Vian ou Gaston Chessac. S'il s'attache ensuite à Saint-Paul Roux ou Pierre-Albert Biro, il révélera par ailleurs des centaines d'auteurs. Pour donner une idée de la variété des choix de René Rougerie, je vous propose d'entendre trois poètes bien différents de son catalogue. Angèle Vanier, Roland Rottenauer et Jean Lancel. Né en 1917 à Saint-Servan-sur-Mer, décédé en 1980 à Bazouges-la-Pérouse en Bretagne, Angèle Vanier devient aveugle à l'âge de 22 ans. Cela ne l'empêche pas d'entrer de manière très active dans la vie littéraire. Pendant 20 ans, jusqu'en 1973, elle est à Paris et elle noue des liens avec de nombreux poètes, dont Paul Éluard, qui préface son deuxième recueil « L'arbre à feu ». Elle devient une figure de Saint-Germain-des-Prés, écrivant des chansons pour Édith Piaf, dont « Le chevalier de Paris », qui sera repris par Yves Montand, Frank Sinatra et Marlène Dietrich. Petite femme à la passion incandescente, celle qui se disait otage de la nuit, invente une poésie sensuelle, mêlant mythes et symboles, portée par une profusion d'images insolites et neuves. Angèle Vanier, poète aveugle, voyait clair dans l'énigme.
Je me suis exilée. Je me suis exilée dans le grain de la pierre. Et j'en reviens au goût du sommeil minéral. Non pas acte de mort, ni retour en arrière. J'explore sans frémir la mémoire du sang pour retrouver les plis du premier mouvement et la langue interdite aux fables des amants. J'ai déchiré mon nom et toutes ces images. Je reviendrai bientôt par un autre chemin, avec un autre cœur, avec un autre corps, avec un autre chant pour mon journal de bord. Je reviendrai bientôt par un autre chemin, avec une autre carte inscrite dans ma main.
Vous êtes aveugle, Angèle Vanier. Vous êtes aveugle depuis l'âge de 22 ans. Et la nuit est pour vous maintenant une présence. Alors moi, je voudrais savoir comment vous habillez cette nuit.
C'est-à-dire que cela a été toute une progression et un long voyage. Au début, cette nuit ne m'est pas apparue comme inquiétante, mais comme un univers à explorer. Vous voyez, c'est cela qui s'est passé. Et puis peu à peu, je suis entrée dans cette nuit qui est riche d'un monde d'images oniriques tout à fait extraordinaire. Et cette présence de la nuit, j'essaie de la rendre sensible dans mes poèmes. Ma poésie a glissé d'une écriture de représentation vers une écriture d'apparition. Et l'apparition me semble taillée dans la même substance que le rêve. J'ai donc tenté de faire apparaître des choses en mouvement. La création poétique, c'est décharger un mot de son impact fonctionnel pour, en la collant à autre chose, lui donner un autre éclairage. Écrire, pour moi, c'est créer un autre monde, un monde parallèle. C'est redoubler le plaisir. Et le moment de dire les poèmes est tripler le plaisir.
Emportez-moi. Mon visage écartait le poison des ombelles, la griffe des ajoncs au rébut des venelles. Cette nuit m'attendait depuis l'âge des phares. Ah! Retrouver le lit des moraines sauvages pour déchiffrer la glèbe et sa prime verdeur. Mes cheveux sont casqués de lunaires ombrages et filent sous la roche avec les poissons fleurs. Des ailes de corbeaux battent sous mes paupières. J'éponge le silence écrasé par les pierres. Je les entends monter dans la pluie des hameaux. Un rire caverneux d'épaules envoûtées secoue des fardeaux gris, plombés de coques d'eau. Je les entends craquer dans l'herbe de l'ondée. Belle à frémir, belle à mourir, sauge des nuits. Bien sûr, leur âme est prise à des cristaux de neige. Il faut un souffle doux pour la fondre sans cri. Il faut qu'une buée poreuse la protège. Le vieillard a lâché les rênes pour comprendre où la sébille en bois blessait ses os brisés. La femme grave épie la tache des sommets. L'enfant s'agite un peu sous son rideau de cendre. Emportez-moi dans la charrette pauvre et nue, avec le grand vieillard et la femme et l'enfant. Emmenez-moi crever l'horizon des étangs noirs, pétris du charme des ciguës.
Elle se perd dans l'imposture de ce temps plein, comme l'odeur d'un grenier, dans le sourire, toujours le si bémol à la clé, dans la cambrure, des inflexions de vagues tissent l'embrun des amours, dans les étreintes, une virgule qu'on déplace, et si peu, dans le sommeil, la roue d'un vieux moulin si rauque, et trop d'instants brisés sur le sol. Faudrait-il s'ouvrir la mémoire comme une veine sous la mer, chercher à tâtons dans les cendres le point vulnérable du feu? Et dans la mort, fermera-t-on la porte de la grange qui bat, depuis que cet orage a découpé tout vif le phrasé des lilas le soir qui balançait. Il fait trop de vent dans ce lit pour attendre. Quand les statues de Saint-Sulpice deviendront folles, la Vierge Noire couchera avec le loup blanc. Et la synthèse convulsive sur la langue brouille des œufs.
Le lac est rouge. Parole de l'homme. Le lac est rouge au centre du salon. Je ne crains pas le sang des roses de minuit. J'interviendrai dans ton sommeil avec la lampe des ancêtres. Les âmes de tes mortes encombrent ton sommeil et trahissent le jour, tes gestes, tes paroles. C'est dans leur propre feu qu'il faut tailler le seul miroir propre à surprendre les remous de leur visage. Le lac est rouge au centre du salon. Si ta demeure est vénéneuse, on me l'a dit, ce n'est vrai que pour l'homme aux yeux trop rapprochés. Moi, d'un regard, je pourrais faire sans ciller le tour complet de ta mémoire. Je ne crains pas le sang des roses de minuit. Je connaîtrai le bruit que tes mots préférés font en tombant au sol et la chanson de ceux qu'on jette au feu et qui feront monter la flamme, le lac est rouge au centre du salon. J'interviendrai dans ton sommeil. Je dépendrai la suicidée, femme chargée de trop de femmes noires, noires à force de blancheur, qui se balance dans ta gorge et crie trois fois aux pleines lunes dans le nid de tes cauchemars. Je remettrai tous ces péchés à cette orante qui t'habite, l'orante en noir à col de cygne qui vomissait dans la chapelle, toujours après ses confessions. Et parfois perdez connaissance, le lac est rouge au centre du salon. Je ne crains pas le sang des roses de minuit. J'interviendrai dans ton sommeil avec la lampe des ancêtres. J'interviendrai, je t'atteindrai jusqu'à la mort, jusqu'à la mer, jusqu'à l'amour, jusqu'au refrain des éternels retours. Je t'atteindrai, mais pour ceci. Pour le secret couvé par l'œil d'une araignée qui loge au nord, on me l'a dit.
et dans la tour. Nous attendrons l'hiver, la mort de la servante, la clé trouvée par l'innocent sous des siècles de robes vierges et les pas d'un berger circoncis sur la neige.
L'amour des mots m'est venu très jeune, à l'école. Je savais lire à l'âge de 5 ans et lire couramment parce que ma grand-mère m'avait appris à lire. Je suis allée à l'école et on m'a mis entre les mains livre de lecture. Et il y avait A, B, C, mais moi je savais tout ça. Je suis allée à la dernière page du livre et là, il y avait un texte écrit en vers. Je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait des lignes, ça allait à la ligne. Et j'étais tellement frappée par le graphisme du texte que j'ai fait une analogie entre la manière dont l'écriture était sur la page et le rythme. Et quand ma tante est venue me chercher à l'école, j'ai couru vers elle et disant « je voudrais faire ça un jour ».
Petite brute forestière, petite brute forestière, crucifiée sur un lit d'espoir, tu te balances en ton brouillard, tu ressonges la main du vent et la langue de la rivière glissée sous tes robes d'enfant. La blancheur est plus douloureuse que la blessure qu'on attend, avec un cœur battant, battant, comme un visage d'amoureuse, un visage battant des ailes. Toujours la même ritournelle des filles qui n'ont pas le temps de vivre lentement. Ah, faites-moi saigner pour l'amour de l'amour. Délivrez-moi du cri qui tourne dans sa cage. Délivrez-moi du rêve enfermé dans sa tour. Délivrez-moi du sang glacé des vierges sages. Qu'il bouge de sa nuit et passe dans le jour.
Oh, le sang fourré d'hermine se mettre à célébrer dans le regard la tacite agonie du bleu. Rêve collé aux dalles, prononcer les vœux perpétuels, entretenir les mots comme un feu. Qui parle de saillir la mort? Et le dernier anneau de vivre se dilate, la présence réelle aura l'image plus flexible que jamais. Des portes verrouillées accostent le passant. Il y a parfois très longtemps qu'à l'intérieur du cloître, le bruit des vagues seul aurait pu pénétrer et qu'il absorbe, seconde après seconde, cet écart pourpre de deux corps, lisiblement sans cesse séparés. Et l'or se feutre sous le voile et l'équivoque grégorienne se prolonge, pareil au spasme d'un baiser. La grâce et son odeur hautaine et réticente, c'était le prix pour vivre dans l'audace, le mouvement rituel d'un livre ou bien d'un corps enluminé.
Équinoxe. Autour de ma cité veillaient mes amours mortes, plus grandes que nature et plus folles que moi. La marée d'équinoxe a dépassé ses droits pour entrer dans ma ville et par toutes les portes. Mes fantômes et moi, nous nous laissons mourir sans accuser trois fois l'énigme de la lune. Nous nous laissons noyer pour cette chanson d'une qui ne connaissait plus le nom de son désir. Mais la mort et la vie sont compagnes d'école. Le cri d'un oiseau bleu renverse les symboles. Je n'obéirai pas aux lois des chairs noyées qui remontent le soir en surface pour rien. Je pèse et ma chair colle au sol de ce jardin que ma ville cachait au Seigneur des armées. Un ange de la Bible en costume marin me délie du passé par le sel et l'écume. Rends mon corps à l'argile et rends mon âme à Dieu. les eaux de l'équinoxe en chantant se retirent de ma ville ancienne aux armes, sans sourire. Je rêve dans la terre où je suis retournée, d'une nouvelle chair pour la nouvelle année. Parce que l'homme est seul et que la terre est ronde, l'amour de l'inconnu veut me remettre au monde depuis un nouveau cœur pris aux sources du feu. L'homme qui suivra l'ange ignore mon visage. Je n'ai pas entendu le chiffre de sa voix. Mais Dieu répond de tous les songes qu'il envoie, de tous les coups de dés et des livres d'images. Le bélier du printemps gonfle l'aubier des femmes. Les vertiges du cœur s'accouplent dans le vent. Le cours des sèves meut le sommeil des amants qui se croyaient perdus à jamais, corps et âme. Ôteras-tu bientôt ta cagoule de brume, voyageur du levant qui tremble à l'horizon, pour que ma main prenne l'empreinte de ton front et qu'un seul fruit sur l'arbre de vie se rallume. Que ma foi sur les yeux en peine se décalque, que tous les mots d'amour sachent qu'ils sont sauvés. J'ai porté pleinement le poids de leurs péchés. Je vais ressusciter dans ma robe de Pâques.
Vous n'avez probablement jamais entendu parler de lui. Auteur discret s'il en est, Roland Rottenauer n'a jamais quitté son Alsace natale et il ne fréquente pas les milieux littéraires. Son œuvre, faite de 20 recueils, tous ou presque publiés par Rougerie, couronnée d'un prix en Belgique et du prix Artaud en France, traduite en vietnamien et saluée par Jérôme Garcin dans plusieurs de ses chroniques poétiques du Nouvel Observateur, est remarquable par la constance de ses choix et de son inspiration. Chronique du visible et du transparent, le titre d'un de ses recueils pourrait la définir. Sobre, clair, obstinément vouée au paysage naturel, la poésie de Rottenauer exprime un sentiment d'être aussi inquiet qu'émerveillé parfois. Une poésie qui cherche, selon ses propres termes, à vérifier l'âme du monde.
La rivière, le chêne. Jour. Même peu rythmé, quelques mots sauraient illuminer cette journée de décembre, approcher ce qui renonce à trouer son mutisme, cette part de réel déposée en neige fine sur les branches du chêne que j'ai devant les yeux, quelques mots dont le sillage dispense un peu de joie pour quelque temps. J'envoie une strophe bien lisse dans le soir. Elle s'enroule autour du chêne comme du lierre. Mots récusés de 4 syllabes et plus. Aux branches suspendues tournent au vent moulins à prière. Aligné sagement, chaque chose vient cueillir son nom sur le bout de la langue, étale au grand jour sa nuit. Celui qui cherche les noms lance au loin ce qu'il appelle rien, comme un simple caillou. La joie tombe drue d'un ciel vide. Au lieu de m'enfoncer un clou dans l'occiput, mieux vaudrait rappeler cette lumière des fenaisons, réveiller le village au fin fond des années où je baratte le lait des songes, fabrique du solide avant le soir, d'autant plus qu'une simple phrase m'arrache à l'hiver aujourd'hui. le retour. Échappé d'une vieille gravure, chêne et rivière dans la vallée nous attendaient. Comme la maison déserte que nous voulons remplir de ferveur et de rien d'autre. Car bien vite à présent se comptent les années sur les doigts gourds de la mélancolie. Pouvoir des mots. Il me faudra songer un jour à recueillir les mots qui sont tombés comme dents gâtées de mes poèmes les plus anciens. Même évidés, cassés, chacun sera bien utile. Plusieurs sommeils il s'agira de fendre, avec tous les mots comme silex. Avant seulement de toucher du bout du nez la membrane, de quel printemps bien réel ? Hiver, un matin d'hiver, au milieu du siècle XXe, sur une fenêtre embuée, glissent des gouttes froides, comme autant de possibles, sur la réalité lointaine, indiscernable. Il faudrait touiller ce qui reste comme espérance au fond de la tasse. Il faudrait y tremper un doigt, le porter à la bouche et sucrer, si nécessaire, au miel des vieux songes. Maintenant que sur les chemins caillouteux, le Wanderer à trouer ses chaussures, que le paysagiste de l'âme a brisé tous ses pinceaux et le poète a étreint la réalité rugueuse, le rêveur de monde meilleur déchiré son oreiller, maintenant que plusieurs vies de rechange nous tendent les bras par les fenêtres bariolées du paradis numérique et d'artifice en sacrifice, nous atteindrons le point oméga de la grande mue. Aux renaissantes chimères sans tarder, crevons les yeux. Comme en rêve, je suivais depuis quand ce chemin de sable et de bruyère? Je venais d'où? Y retournerai-je? Ciel de fin d'été si improbable mon courage. Au loin, les trompes du soleil aspiraient les couleurs d'une immense pente, puis se rétractaient, découvrant ce que j'appelais le domaine de la pluie et des songes, aussi longtemps que ces deux mots n'avaient pas fondu sur ma langue. Une parcelle de ma fatigue échoit à chaque frêne du bosquet. Je passerai la nuit dehors, en vieux chinois, parmi les remuements du grand tout.
Périple et détour. Borobudur, un Bouddha. Contenir les mots de toutes les langues et à l'instant même toutes les phrases prononcées, ici comme ailleurs, c'est contenir le silence en un corps de roche noire. La plante des pieds fixe le ciel. À croire que s'entrouvre ici le domaine des songes. Un ciel tardif puise la lumière à l'illusoire du temps. Bouddha, combien sont-ils à tenir tête aux cendres fort de la nonchalance des sèves ? Le soir souligne ses gestes pétrifiés sur les bas-reliefs. L'immuable ici, depuis 12 siècles, est une pierre chaude. Je monte et n'attends pas plus le grand éveil qu'au bas de l'escalier. Du silence des Bouddhas ruissellent des notes perdues. C'est le corps du temps, cette pierre enchâssée dans les feuillages et les pluies. À qui l'explore des pieds à la tête, il montre comment le vaincre, lui, l'invincible. Je n'ai jamais vu la tête ni la queue de cet animal qui pousse des cris affreux quand la nuit je traverse le Pendopo désert. Le ventilateur au plafond de ma chambre accule tous mes rêves dans les coins, jusqu'aux premières psalmodies du muezzin qui leur enjoint, me semble-t-il, de ne s'aventurer sous aucun masque dans les fièvres humaines. Les rizières se partagent les lambeaux rouges du crépuscule. Je dois partir. La reine des mers du sud danse avant minuit à Jogja en robe verte et moulante. Au loin, fume le Merapi paisiblement, si lumineux. Moi, je fume une crétèque au clou de girofle à me parfumer l'âme. Vishnu, dans sa niche obscure, pose un pied sur le serpent de l'éternité, ne le lâche plus. Demain, je me renvoie par toutes les Indes à l'Occident de mes songes. Le chêne, il est là, devant mes yeux depuis tant d'années, et ne m'a pas adressé la parole une seule fois. Reviens, m'a-t-il dit, comme moi plus vert et plus fort chaque printemps. Il doit surtout destiner aux oiseaux ses rares propos et je ne lui prête pas souvent mon oreille, il est vrai. En attendant, il se tricote un gilet de lierre pour affronter les 100 prochaines années. Yin et Yang ne sont pas une paire de clochettes suspendues dans l'atelier d'un créateur barbu qui veille à tout et à rien. Yin et Yang régissent le monde. On peut souscrire, même si on sait qu'aucune solution ne déboutonne entièrement la robe de l'énigme. Car toujours il y a pourquoi. Et pas de réponse est réponse. Et vaut acceptation comme on l'admet. Ce matin, portons au vent nos contradictions, les pures, les secrètes et les autres. Il leur rafraîchira figures et couleurs. Qu'elle demeure stimulante au moins, si déjà nous arrivons si peu à fiancer le rêve à la réalité, comme l'exigeaient tout bonnement nos 20 ans. Il devient nécessaire à nouveau de ratisser son jardin de sable et d'herbes rares, de relever les empreintes d'oiseaux comme une écriture sacrée. Aujourd'hui où des bombes explosent au cœur des villes sans que fonde le masque sur le visage des mots.
Élégie et Pierre de Fronde. Enfance. Quand fleurissaient les hortensias pâles devant la porte, je ne les envoyais pas bleuir dans un poème. Quand j'entendais venir de la porcherie des grognements, je ne pensais pas à la bête immonde qui se réveille à tout moment, comme on sait. Au verger derrière les tables, je cueillais les pommes, et si j'en mordais une, on ne me chassait pas du paradis. Il m'arrive de trébucher des journées entières sur les moellons brisés de l'enfance. Il faudra sans doute me rouler dans les orties du talus pour que les brûlures enfin soudent les bonnes connexions à distance du cœur et empêchent le moindre regret de trouver sa raison quand s'ouvrira toute grande la porte de l'oubli. Oiseau-araignée. Avec merles et pinsons, j'ai beau partager mes graines à la table de l'hiver, je ne ferai jamais partie de leur monde. Eux, d'un coup d'aile, prennent de la hauteur quand ils veulent et tout s'amenuise en bas. Éloge des araignées. Par les déchirures de leur monde, elles viennent tisser leur toile dans le nôtre, attrapent mouches et moucherons, phrases à bout de souffle que les livres expulsent, filent matin comme soir, en pitié des plafonds et encoignures, leurs oracles rimés. Espoir et chagrin, proie et venin, elles ont le souci de la dualité, contribuent à la marche des choses. Soir de novembre, le monde se dépose, en particules lourdes, au fond des étangs. La nuit aura plus d'un poignard dans la poche pour rouvrir les anciennes blessures, et plus d'un fil au doigt, je veux l'espérer, pour les recoudre. Je voudrais me réveiller à l'aube dans un jardin fleuri, au moins de temps en temps, comme à la lisière d'une forêt d'autrefois, ou au beau milieu d'une hêtraie. Mon esquif chaque nuit vogue sur une mer en carton-pâte, houle inerte, et me débarque au premier son de cloche entre quatre murs, de plus en plus difficiles à repousser. L'oreiller du rêveur, imbibé de sueur et de larmes, combien de fois le poème l'a-t-il essoré, depuis que rarement se propose une planche de salut bien lisse et bien robuste, contre laquelle appuyer une joue. Bûcheronnons, arasons, creusons, enfouissons, gélifions, érigeons. Que disparaissent les paysages de l'enfance. Ils n'ont que trop duré. Coupons le cordon une fois pour toutes et déchiffrons, épousons les bêtudes. Les choses devant nos yeux doivent tenir nos oreilles pour de grandes infirmes, se lamente le rémouleur qui aiguise les mots et les insère dans la strophe étroite de ses jours. Ce que l'eau et le vent taisent depuis l'origine, demande la parole et sa pierre, il en est convaincu lorsque jaillissent les étincelles qui trop vite s'éteignent.
Il se déclarait volontiers lui-même poète atypique. Ami de Jean Dubuffet et Gaston Chessac, Jean Lanselme a transposé en littérature quelques-uns des principes de ses amis peintres. Le titre d'un de ses premiers textes, poème écrit de la main gauche, l'énonce clairement. Son œuvre moque résolument la poésie savante, l'intellectualisme sentencieux, les nouveaux académismes formalistes ou textualistes. Il est ainsi l'auteur, à propos de tel quel, de cette fameuse formule « À force de rechercher le degré zéro de l'écriture, ils finiront bien par trouver des esquimaux glacés ». Il use sans vergogne du calembour comme du pastiche, du détournement, du ready-made, et il n'est pas étonnant que Jean-Pierre Verhaeghen, autre grand concasseur de la langue, le reconnaisse comme un de ses maîtres. Il y a certes du Alphonse Allais et du Pierre Dac dans l'Anselme, mais aussi depuis le Tambour de Ville, qui en fit un des premiers lauréats du prix Apollinaire, une veine prévertienne qui fait entendre une constante révolte contre toutes les institutions et les pouvoirs constitués, les cuistres plutocrates et technocrates de tout poil. À la cour des poètes, Lanselme est le fou du roi.
Lanselme à tout vent.
La poésie, c'est mon cousin Anicet. Sa mère disait toujours de lui, c'est un poème, en prenant le ciel à témoin.
Ce n'est pas en recherchant le degré zéro de l'écriture qu'on arrive à faire des esquimaux glacés.
Les marins ont une femme dans chaque port. Les poètes dans chaque port, P-O-R-E. Les poètes sont plus cochons que les marins.
C'est encore dans le fumier qu'on trouve les plus beaux vers.
Le poète raté, au lieu d'avoir la plume au bout des doigts, se la met au derrière pour faire croire à l'oiseau rare.
La poésie, c'est comme la blédine. On l'aime avant de pouvoir en parler.
Si on savait que les lucioles sont aussi des vers luisants, on s'en servirait moins pour faire des vers reluisants.
Entre deux mots, choisissons le moindre.
La poésie est une question de tripes. Mais la mode de quand ?
Rire vaut un bon beefsteak. Alors, au prix où est la viande ?
Le capitalisme, voilà l'ennemi. Il y a aussi un capitalisme de l'esprit exploiteur qui est un terrorisme et un danger pour la société. Vive les nanars du verbe, vive les smicards et les OS des lettres.
Peu importe le verre, pourvu qu'on ait l'ivresse. Écrit 20.
On commence à être cru quand les vers se mettent à avoir de la bouteille. Poésie et pinard sont du même tonneau.
Vers, V-E-R-S, dépoli. 20 fois sur le métier, dépolissez l'ouvrage. Un vers trop poli ne peut pas être honnête. Méfiez-vous des vers luisants.
Dit du gars de chez Renault. De bonheur, c'est quand on se lève tôt. Du bonheur, c'est quand on se lève tard.
Chant d'espoir d'un jeune couple de travailleurs. Fini d'être marteau quand la faim nous tenaille. Nous voici établis. Demain, tout ce rabot.
Dans mon village, on a mis l'école rue de la Liberté, le cimetière rue de l'Égalité et l'avenir en impasse.
La mort dans l'âme. L'éphéméride fait méride. Le temps, c'est aussi de l'argent, plein mes cheveux.
Curriculum vitae numéro 31416. Je ne suis jamais du côté du manche, mais toujours du côté des cognées. Pas du côté matraque, mais avec les coudes relevés. Pas avec les puissants, mais avec les emmerdés. Et même, je le dis sans honte, pour le cancer et la tuberculose. Tout le monde s'avoue en contre. En politique, c'est la même chose.
Curriculum numéro 1515. À l'époque où j'ai été instituteur, les parents m'envoyaient des bouquets de fleurs. Les instituteurs de maintenant n'en reçoivent plus des parents.
La mort du pêcheur. Quand on est pêcheur d'éponge et qu'un chagrin d'amour vous ronge, faut pas t'avoir soupir profond, travaillant par 20 mètres de fond. Si par malheur on a de la peine, on risque fort d'avoir de la gêne, car soupirer à cause qu'on aime, ça ne pardonne pas, faute d'oxygène.
Les chiémises de l'archiduchesse, ready-made. Fontainebleau, le 9 octobre 1694. Vous êtes bien heureuse d'aller chier quand vous voulez. Chiez donc tout votre chien de saoule. Nous n'en sommes pas de même ici, où je suis obligée de garder mon étron pour le soir. Il n'y a pas de frottoir aux maisons du côté de la forêt. J'ai le malheur d'en habiter une, et par conséquent, le chagrin d'aller chier dehors. Ce qui me fâche, parce que j'aime à chier à mon aise quand mon cul ne porte sur rien. Item, tout le monde nous voit chier. Il y passe des hommes, des femmes, des filles, des garçons, des abbés et des Suisses. Vous voyez par là que nul plaisir sans peine, et que si on chiait point, je serais à Fontainebleau comme le poisson dans l'eau. Lettre de la Duchesse d'Orléans à l'électrice de Hanovre.
Dans la vie, contrairement à ce qui se passe en joaillerie, les perles de culture sont plus rares que les autres.
L'essence. Ça s'enflamme.
Lorsque les roquets aboient au derrière des chevaux, c'est par peur de passer inaperçu.
Mon père m'ayant quitté dès le plus jeune âge, j'ai douté depuis du Père éternel.
La culture, c'est quelque chose qui tient de la pêche à la ligne. Il faut dépenser une fortune en asticots pour attraper, de temps en temps, une épinoche.
Il est plus humain de culbuter une femme dans le muguet que de l'envoyer sur les roses. Question d'épines.
Les voyages forment la jeunesse, mais pas celle des valises.
Coupez-moi ça à ras, dit le bon Dieu.
Et ce fut le désert.
L'amour tient beaucoup de place, très peu les amoureux.
Tous les hommes qui ont la queue en tire-bouchon sont des cochons.
Tout ce que j'aime me fait mal.
Quand c'est avec la gauche qu'on a le pied dans la merde, c'est promesse de bonheur.
Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es.
L'égalité des sexes. Imaginez donc ça un peu.
Un curé qui a une crise de foi me paraît aussi triste qu'un poète qui persévère.
Le bonheur pousse aussi plus vite sur le fumier.
Je ne suis pas un lâche. Quand je flanque mon pied au cul de quelqu'un, c'est toujours par devant.
Il y a des chauds lapins très mauvais coucheurs.
N'ayant jamais inventé la poudre, je n'ai jamais pu m'en servir, ce qui n'est pas un mal.
Quand un amour n'en finit plus de finir, c'est bien là le début du commencement de la fin.
Ne remettez pas à deux mains ce que vous pourriez faire avec une seule.
Il me flanqua ses talons dans l'estomac, ce qui me coupa soudain l'appétit et précipita ma faim.
Il ne faut pas croire que l'accroissement des suicides contribue à la prospérité des laboratoires de barbiturique, puisque la mort stoppe net la consommation.
Ayant du mal à gagner leur croûte, les lépreux y laissent souvent leur peau.
Parce qu'ils l'aimaient trop, ils n'en foutaient plus une rame. Voilà où mènent les transports en commun.
Ma mère, face à la mer, avait toujours un regard vague.
L'endive, c'est ta mère, dit mon père. Mais ma mère le prit mal.
La belle, de qualité. Elle avait des seins qui n'avaient pas besoin d'un soutien, ce qui était pratique pour les tenir dans ses mains et beau à voir dans l'échancrure. Quand on parle de pigeons dans des nids, pour les siens, c'était vraiment ainsi. Elle avait des fines et fermes fesses à se voiler la figure à confesse. C'était du cousu main haute couture, devant qui les pauvres n'avaient plus qu'à se mettre la ceinture.
Le dormeur Duval, il n'avait pas les reins beaux, l'ouvrier Duval, et souvent mal à l'aine dans son usine de beaux reins dans l'aine. 8 heures dans la mécanique, vous vide comme une pile électrique. Alors il dort, Duval. Il dort comme ferait un enfant, bouche ouverte, tête nue, au milieu de ses draps blancs, en souriant au nu, aux oiseaux sur les branches. Et quand le réveil lui planta ses aiguilles jase dans le flanc, il n'eut même pas un geste d'arrêtement. Duval rêvait que c'était dimanche. Il a 2 croix rouges sur sa fiche d'avancement.
Le complexe du boulanger. Mamie, c'est pas du flan. Ma brioche va croissant. J'en suis vraiment baba. J'ai peur de devenir tarte. Mon chou, si ta brioche, c'est pas du gâteau, ce n'est pas un mystère. C'est ta force de vivre bien aux pommes dans tes petits chaussons.
Tourisme. des milliers d'arrestations, de nombreux prisonniers, et puis des torturés, bien sûr, des fusillés. C'est Bosphore formidable, Ismark miraculeux, Istanbul versant, pour 1495 francs. Con comme la lune.
Voisin de palier. Elle avait les seins bas et le bassin à la même hauteur, si bien que pour aller de l'autre à l'un, on ne prenait pas l'ascenseur.
On a les seins qu'on mérite. Maxime Dicton, pensez ces proverbes.
Les compteurs. Le compteur d'eau rencontra un jour le compteur à gaz et tous deux se racontèrent des histoires de compteurs. Le compteur d'eau était pâtre des montagnes. Il récita des contes bucoliques où l'eau claire descendait en cascade, éclaboussant les rochers de blanches étincelles d'eau claire. Le compteur à gaz sortait de l'université et ses discours étaient aussi inconsistants et creux qu'une toile d'araignée dans laquelle le vent s'ennuyait follement. Le premier reprocha à l'autre de brasser le vide avec une écumoire. Le second accusa le premier de lasser tous les passes lassés avec sa poésie dépassée du passé. Le compteur d'électricité, passant par là, sentit beaucoup d'orage dans l'atmosphère. Il en profita pour attiser durablement les éclairs.
On croit parfois des choses. Elle faisait des jeux fléchés dans le train de banlieue, posant pour réfléchir ses yeux sur n'importe quoi sans rien dire. C'était dans les miens qu'elle trouvait le mieux, les mots les plus rares, car elle y restait longtemps. C'était troublant, car elle ne me regardait pas dedans, mais au-delà, sans même me voir en passant. Et pourtant, comment ne pas y croire un instant ?
La Souillon. Elle était sale comme un peigne, attachante comme une teigne, et faire l'amour était son fort. Sa chemise empestait la vaisselle, et l'on humait sous ses aisselles le fauve, le rance et le vieux porc. La garce avait le sein qui chante, la cuisse et la lèvre brûlante, la fièvre et le diable dans le corps. Elle était pire que la tempête et vous sautait à la braguette comme un avare sur de l'or. Sa bouche avait telle appétence qu'elle décortit qu'est-ce qu'on pense en moins de temps qu'un hareng sort. Son haleine était puante, mais quand on passait sur son ventre, c'était navire de haut bord. Nous roulâmes dans les orties qui me semblèrent un paradis et c'est ainsi que je suis mort.
Cogito ergo sum. Je me trouve actuellement en plein débat intellectuel. Ainsi, en salant mon trottoir après les dernières chutes de neige, s'est imposée à mon esprit cette énorme question. Comment les banquises peuvent-elles encore subsister puisque l'eau de mer fait fondre la glace ? Je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette interrogation et en reste perturbé. Mon tourment ne s'arrête pas là. Avec le même illogisme, l'hiver, vous soufflez sur vos doigts pour les réchauffer et sur votre soupe pour la refroidir. Et on vous conseille par temps de canicule de fermer vos fenêtres à la chaleur, mais d'ouvrir en revanche celles de votre voiture. Vous m'obligeriez par ailleurs si vous pouviez m'ôter de ce tourment syntaxique. Il concerne l'expression « baisser son froc », qui implique un acte de soumission, d'abdication, alors qu'en le baissant, on montre son cul. Geste qui relève cette fois de l'arrogance, de la provocation et du défi. À quel moment s'opère la bascule, le déclic et la question que je me pose ? Le grand âge fabrique les grands sages.
Les noirs ont le dessous des pieds blanc. Pourquoi chez les blancs il n'est pas noir ? Même chez les pieds noirs ? Maxime Dicton.
Les songes creux, conseille un jeune poète. Ils brandissent jusqu'aux cieux leurs bras sarmenteux, en proférant des cris aussi vains qu'un silence. Ils brassent les mots comme on brasse du vent, des mots qui, face au vide, hésitent un instant, puis s'envolent, innocents, futiles et anodins, avec la consistance d'un paix de sacristain. Poète, c'est ainsi que sont les grands poètes. Les chiants désespérés sont les chiants les plus sots, et j'en sais d'immortels qui me laissent sans mots.
Petit poème de la vie ordinaire numéro 1. En revenant de la grand-messe, Joseph tomba sur Mélanie, une fille aussi belle que ses fesses, dont il rêvait toutes les nuits. La voir lui retournait tant les sangs et le rendait si dégourdi qu'avant de pouvoir foutre le camp, elle était déjà devant lui. Il est là, con comme une madeleine, ses doigts farfouillant ses trous de nez. Lorsqu'elle lui dit « Je t'aime », il regardait le bout de ses pieds.
Bouse endormie. Et son rut accompli, le taureau ruminait, ouvrant l'œil à demi, après le débandage, à la vache avachie qui avait pu semer cette tarte d'épinards dans le champ des herbages. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle.
Nota bene, ne pas oublier que dans le bouse de Hugo, Ruth était une moabite.
De fièvre ou de torture. Pour combattre la mort, faites la grève de la faim, F.I.N. À tisonner le feu, on se retrouve en cendres. À quoi sert de mourir? Il faut partir à point.
Matt Spé. Né à 40 ans, marié à 7, mort à 3, enterré dans l'Ain.
Histoire drôle. Pendant l'occupation, après avoir flanqué une chicorée à un frisé, je l'ai vu partir, pâle comme une endive, dans un panier à salade. Ça sentait le vinaigre. C'est peu après qu'on l'ait tué.
Lettre à la Fédération française de poésie, à mon fils. Coureur cycliste. Chez nous, les poètes amateurs, c'est plus dur que chez les professionnels. Il est vrai que chez les grands pros, Verlaine, Rimbaud, Artaud, Michaud, on se droguait comme virinque et c'était le paradis artificiel. Mais Coubertin ne peut plus accepter cette célébrité obtenue à coups d'absinthe, d'opium ou de pinard. Maintenant, on devrait exiger des contrôles d'urine par les éditeurs quand ils reçoivent des manuscrits, ou au moment où les contrevenants sont en train de pisser des alexandrins. Les femmes n'en seraient pas exemptes, même si elles ne pissent pas pareil. Ainsi viendrait-on au secours de poètes qui perdent les pédales. La poésie serait alors plus propre, à l'abri de tout soupçon, et non falsifié à l'insu de son plein gré. Mens sana in corpore sano. Veuillez agréer, etc. C'était Géographie du poème, carte blanche à Jean-Pierre Siméon, en direct du studio 111 de la Maison de la Radio. Avec les poèmes d'Angèle Vanier, Roland Rottenauer et Jean Lancelme. Interprété par Élodie Hubert, Thierry Bosque, Nicolas Gonzalez de la troupe du TNP et Olivier Martineau. Improvisation musicale de Sophie Agnel au piano et Jean-Christophe Fedlandler aux percussions. Prise de son, Julien Douminc et Anil Bosselet. Assistante, Chloé Mauduit. Réalisation, François Christophe. Les extraits de Radioscopie avec Angèle Vanier ont été diffusés le 28 avril 1975. Les poèmes sont publiés aux éditions Rougerie.